Bon, on sait que la COVID, évidemment, a placé des entreprises en difficulté. Dans certains cas, ça n'allait pas bien avant, puis dans d'autres cas, c'était pas si mal. Mais malheureusement, il y a eu cette espèce d'effet tsunami. Et c'est Bizou là, qui se place à l'abri de ses créanciers.
Oui, Bizou, dans le fond, c'est un modèle d'affaires basé sur des achats un peu plus impulsifs, ou disons des accessoires entre 3 $ et 60 $ majoritairement. Donc, on vise la clientèle qui se promène en centre commercial et qui dit « Tiens, je vais m'acheter quelque chose pour mettre avec ma robe ou avec mon chandail. » Ou « C'est pas cher, donc on en achète 2, puis 3, puis 4. » Donc, c'est basé sur du lèche-vitrine, puis sur des achats impulsifs, mais aussi sur des achats pour des événements. Mais là, t'as plus d'événements, t'as plus de lèche-vitrine. Quand tu te déplaces en magasin, c'est pour acheter. Donc, c'est rare que tu planifies de dire « Hey, je vais aller au centre-ville pour m'acheter des boucles d'oreilles à 6,50 $ ou à 60 $ Et donc, ça vient tuer le modèle un peu. Et ce modèle-là, c'est une stratégie en plus, Paul, en marketing, qu'on appelle une stratégie de coût. Parce que tu as deux types de bijouterie ou d'accessoires. Tu as les Birks de ce monde qui sont dans la grande différenciation. Grosse marge de profit en dollars, mais moins de ventes, mais produits d'exception. Et tu as les entreprises comme Bizou qu'on vise sur un volume élevé. On peut peut-être faire une marge élevée en pourcentage brut, mais une faible marge en dollars. Donc, faut que tu en vendes beaucoup des petits accessoires Bizou ou l'équivalent d'Ardennes pour y arriver. Et donc, la disparition des centres commerciaux pour quelques semaines, et là, la clientèle qui est un peu, qu'on lui dit « reste chez vous », ça aide pas ce type de commerce. Mais évidemment, comme tu le disais tantôt, c'est une excellente occasion pour se restructurer en cas de COVID et dire « bon, notre modèle d'affaires est-il à son meilleur? »
C'est tout le problème aussi de payer les loyers dans les centres commerciaux, ben oui. Là, puis ça commence à être lourd et pesant. Là.
Puis même les centres commerciaux, il y a un article dans le journal ce matin qui parle de tour à bureau qui se convertira en location de chambre. C'est majeur. T'imagines-tu, là, t'es propriétaire immobilier ou commercial? Tout va bien. Tu sais, ça fait 15-20 ans là, que tu te dis, on l'a-tu l'affaire? Puis du jour au lendemain, tes clients n'existent plus. C'est spectaculaire.
C'est parce que, sais-tu ce qui me fascine? Entre le discours officiel que j'entends pour le centre-ville de Montréal, que les gens vont venir, puis que ça va être extraordinaire, puis bon.
Puis les actions.
Oui, puis aussi, là, j'entends ça de l'autre bord de la clôture, là. Tu sais, à part les décideurs, puis je comprends qu'ils ont intérêt à être positifs, puis c'est correct, là. Il y a plein de gens là, qui veulent réduire leur espace à bureau. Il y a des grands bureaux d'avocats de Montréal, là, qui se disent plus vrai là, qu'on va payer des étages au complet, puis que les gens vont venir 2 jours semaine, puis il y aura des espaces communs, puis qu'il y a une redéfinition des espaces à bureau au centre-ville de Montréal qui est en train de se faire. Ouais, ils sont mieux de trouver une nouvelle vocation, là.
Les grandes firmes comptables, les grandes firmes d'avocats avaient déjà commencé, Paul, parce que surtout les avocats, quand ils chargent cher, puis il y a des firmes de moyenne et petite envergure qui commencent à avoir de la concurrence sur des services spécialisés, ils disent « Attends une minute, faut qu'on coupe dans nos coûts. » Et quand il y a eu des changements de bureaux, des rénovations de bureaux, Deloitte est un bon exemple, Deloitte, c'est que quand ils ont déménagé le bureau, sont arrivés avec ce qu'on appelle en anglais du hoteling, c'est-à-dire que les employés arrivaient puis il n'y avait plus nécessairement de bureaux dédiés. Et donc, on montrait ça comme de l'ouverture, du travail d'équipe, mais c'était aussi une réduction de l'espace bureau par employé. Et c'est fou de payer des coûts fixes quand tu disais on pourrait faire plus de profit en chargeant moins cher à nos clients puis en sous-traitant le bureau de nos employés dans leur propre maison. Et en plus, ce genre de service professionnel-là se déplace. Et donc, l'espace bureau n'est pas si important pour le client, mais beaucoup plus pour l'avocat lui-même.
Parle-moi donc des ostéopathes que l'Agence de revenus du Canada aimerait, et plus qu'aimerait, là, veut qu'ils taxent leurs services.
Et c'est drôle, puis il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Un, c'est quand même spécial que c'est un acte considéré en guillemets par le public médical. Il y a une reconnaissance qu'on veut chez les ostéopathes.
C'est un soin de santé.
C'est un soin de santé. Il y a plusieurs façons de devenir ostéopathe parce qu'il y a plusieurs écoles. Il n'y en a pas juste une. Il y en a, disons qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin court et long. À l'époque, je sais pas si ça a changé. Et on a un problème pendant des années de reconnaissance. Et là, t'as l'ARC qui vient dire, écoutez, là, vous êtes pas comme les autres soins de santé. On va vous taxer. Mais le client, lui, son signal de prix, c'est quand je vais chez le psychologue, chez le chiropraticien, chez le physiothérapeute, ça coûte cher, tu sais, parce que tu veux te faire soigner, mais en même temps, ça coûte cher. Et là, tu prends une catégorie de cette gang-là, qui sont les ostéopathes, et tu dis au client, tu sais-tu quoi? Lui, il coûte 14,975% de plus, parce que, dans le fond, ce n'est pas le même niveau de reconnaissance de santé. Pourtant, les structures de coûts sont semblables, des locaux, des frais de gestion, de la gestion avec les assureurs s'il y a lieu, de la gestion de rendez-vous, des relations humaines, des contacts physiques de la même nature. Donc, dans sa cohérence, l'ARC devrait dire, ben écoute, ça semble entrer dans les services qu'on ne devrait pas taxer. Mais, vous savez, le timing is everything, Paul.
Ouais.
Pourquoi en septembre, en pleine COVID, l'ARC décide, bon, ceux-là, là, sais-tu quoi? On a assez niaisé, c'est maintenant. On est-tu en quête à l'ARC de revenus là et d'atteinte d'objectifs et que on cherche des sources? Je sais que c'est un long débat, mais là, en tant que client de services professionnels, des fois, je me dis, moi, j'ai certains moyens, quand j'arrive chez des services professionnels, des fois, j'ai un choc tarifaire. Je me dis, ah, là, il est rendu à 110$ à l'heure. Hop, 120, le psychologue. Mais... c'est un peu cher. Tu sais, imagines-tu quelqu'un qui est sur le bord de changer de décision, tu y ajoutes 15%.
Permets-moi une petite parenthèse, puisqu'on est dans les services de santé. Si jamais, ce qui n'est pas le cas, là, on se retrouve avec des fermetures chez des professionnels de la santé comme on a vu le printemps. Là. Tu sais, je pense au dentiste, par exemple, mm-hmm. qui était accessible strictement là, pour des cas d'urgence. La grande question, je te le dis, là, parce que je reçois des messages de plusieurs professionnels qui n'ont même pas l'intention d'ouvrir durant cette période-là. Si jamais on en arrive là.
Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont vous référer ailleurs. Ils vont avoir peut-être moins de choix. C'est dans le sens qu'ils considèrent que, tu sais, on est dans le privé, là, puis qu'ils perdent de l'argent, puis que ça vaut pas la peine.
Bien, parce qu'opérer des coûts fixes, je te donne un exemple, tu sais, par exemple, le dentiste. Si ça te prend le réceptionniste ou la réceptionniste, ça te prend quand même l'investissement de coûts, l'allocation de locaux, etc., puis que le gouvernement subventionne les locaux si tu perds une portion de ton chiffre d'affaires, à l'époque, ils ont pu y penser. Et ça complexifie. La clientèle veut pas se pointer. Tout le monde annule les rendez-vous. Tu payes une hygiéniste dentaire, finalement, 3 rendez-vous sur 4 de la journée sont annulés. Je peux les comprendre. Mais ce qui est fou, c'est un jeune dentiste. Imagine un jeune dentiste l'an dernier qui a acheté une clinique ou qui a démarré une clinique, qui a investi un fonds de commerce de 300, 400, 500 000. Puis il dit, bon, j'ai 25 ans à me rembourser puis faire monter ma business. Puis que là, ces 2 premières années de pratique, c'est-tu quoi? C'est limite. Les clients se pointent pas. Annule le rendez-vous, l'enfant est malade, j'ai mal à la gorge. Donc, il y a un impact important financier pour ces gens-là aussi.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée.